Chers auditeurs et chères auditrices, la prière, c'est quelque chose de tellement important qu'il faut absolument que nous puissions comprendre l'importance qu'elle a dans notre vie de tous les jours. Bien que j'en ai fait déjà une quantité que vous pouvez trouver sur www.bibleexplique.ch. Et je refais une série que le Seigneur m'a mis dans le cœur de vous transmettre. Tout d'abord, quelques explications et conseils utiles. C'est donc la première partie. Un seul modèle de prière nous a été laissé par le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier qu'il a dit à ses disciples, « Ne vous mettez point en peine de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera ce qu'il faudra que vous disiez. » Saint-Luc, chapitre 12, versets 11 et 12. « Si donc, vous qui êtes mauvais, savez bien donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Saint-Luc, chapitre 11, verset 13. Et saint Paul affirme que nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il le faut, mais que l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses et intercède lui-même pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Romains chapitre 8, verset 26. Ce n'est que ainsi que nous pouvons prier sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Car quel recueil pourrait nous offrir les ressources dont nous avons besoin dans les diverses circonstances de notre vie? Nous savons que beaucoup de personnes considèrent comme très difficile et même impossible de prier d'abondance, surtout au milieu d'un cercle plus ou moins nombreux. L'expérience personnelle ne nous a que trop appris combien on s'effraie alors de devoir prononcer quelques mots d'action de grâce ou de supplication. Quelle gêne, quel malaise on éprouve et combien on étouffe en soi les dispositions qui doivent accompagner la prière, c'est-à-dire le recueillement, le calme, le sentiment de la présence de Dieu et celui de nos besoins spirituels. Mais quelles sont les causes de cet effroi, de cette gêne, de ce malaise ? Ces causes sont la préoccupation de soi-même et de l'effet que l'on cherche à produire, c'est-à-dire une trop faible et trop incomplète idée de la présence divine devant laquelle s'évanouissent toutes les considérations vaines et mondaines. Et pour tout dire en un seul mot, c'est bien entendu le manque de foi. Et c'est toujours là le secret de notre trouble, de nos hésitations et de nos craintes. Demandez et on vous donnera. Saint Luc, chapitre 11, verset 9. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez et il vous sera accordé. Saint Marc, chapitre 11, verset 24. C'est ce que dit le Seigneur. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans hésiter, car celui qui hésite est semblable au flot de la mer, qui est agité et poussé ça et là par le vent. Saint Jacques, chapitre 1, verset 5, et 6. Si nous demandions l'esprit de prière, le don de la prière, comme le Seigneur et son apôtre veulent que nous le demandions, sans hésiter et avec foi, il nous serait donc accordé. Jésus marchant sur la mer, et Pierre lui dit, « Seigneur, ordonne que j'aille vers toi, en marchant aussi sur les eaux. » Jésus lui répond, « Viens !» Et Pierre, étant descendu de la barque, marcha sur les eaux. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria et dit, « Seigneur, sauve-moi !»« Homme de peu de foi, lui dit Jésus, pourquoi as-tu douté ?» Saint Matthieu, chapitre 14, verset 25 à 31. Cet admirable récit explique ce qui ne se passe que trop souvent en nous lorsque nous voulons prier. Ne doutons pas, et comme l'apôtre, nous recevrons des forces surnaturelles et le sentiment de notre faiblesse disparaîtra devant celui de sa puissance qui agira en nous. Un vénérable ministre du Seigneur, Sellerier, fut un jour consulté par une personne qui désirait avancer dans la foi et dans la piété et sentait le besoin de dire avec Josué, « Pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué, chapitre 24, verset 15. Et voici le conseil qu'elle reçut de lui à cet égard. « Je crois que ce que vous pouvez faire de plus utile pour votre famille et les personnes qui vous entourent serait la lecture d'un chapitre de l'Écriture sainte accompagné de réflexions simples et d'une prière que votre cœur et la grâce de Dieu vous inspireraient. Je ne vous demande rien en cela. Ce me semble qu'on ne puisse attendre d'une personne qui sent vivement qu'elle ne peut rien, absolument rien, sans la grâce de Dieu, mais qu'avec elle, nous pouvons tout. Nous transcrivons ces paroles avec un fervent désir qu'elles puissent porter la conviction dans les âmes encore craintives et nous ajouterons que nous avons appris par nous-mêmes toute leur vérité et senti que celui qui s'attend au Seigneur ne sera jamais confus. Psaume 25, verset 3. Car il délie la langue du muet comme il ouvre les yeux des aveugles. Saint Matthieu, chapitre 15, verset 31. Nous ne saurions terminer ces réflexions sur la prière de famille sans y ajouter une pensée qui s'est fréquemment présentée à notre âme, c'est que nous devons tâcher de bien comprendre les divers caractères de la prière afin de ne pas nous contenter de celle qui ne saurait nous unir complètement à Dieu et lui être pleinement agréable. La prière dans l'élan de l'âme vers Dieu, c'est une impression profonde que nulle parole ne peut exprimer sans l'affaiblir, soit l'amour ou de supplication, soit de misère ou d'espérance. Cette prière intime qui s'exhale dans le sanctuaire de l'âme et s'élève du fond des abîmes du cœur, est donc distincte de la prière proférée ou prière des lèvres. Car lorsque nous prononçons nous-mêmes cette prière des lèvres, ou lorsque nous l'écoutons, nous pouvons être parfois bien éloignés de prier. Tandis que nous assistons au culte public ou de famille, ce qui se passe en nous ne peut être que sanctifiant si nous sommes animés du désir de nous approcher du Seigneur et si nous nous unissons avec ferveur et sincérité aux prières qui lui sont offertes. Mais il faut de plus chercher à nous élever à lui par cette prière silencieuse qui produit le calme dans notre état moral et qui nous détache des vaines illusions de cette vie et qui nous place en l'unique et solennelle présence du Très-Haut et nous révèle l'immense étendue de l'amour de Jésus-Christ. Il faut donc s'oublier soi-même. Il faut se détourner de soi-même et ne plus contempler que sur la sainteté, la justice, la sagesse et la miséricorde éternelle. L'a-t-on regardé? On en est éclairé. Psaume 34, verset 6. C'est le psaume qui dit ça. L'a-t-on regardé? Alors, on en est éclairé. Si nous prions à deux genoux sans l'assistance de l'Esprit Saint, c'est un peu comme si nous ne prions pas, car ce n'est que dans le silence de l'âme devant Dieu et une attention soutenue à ses directions que notre perception spirituelle se subtilise et nous permet ainsi de suivre ses directions et des inspirations qui nous échappaient auparavant. La prière, c'est vivre avec Dieu. Rien n'est plus facile que l'acte extérieur ou le service des lèvres, et rien n'est plus difficile que d'approcher de Dieu en vérité et en sincérité. Voyez-vous, la prière est une œuvre de connaissance, une œuvre de foi, une œuvre d'action de grâce, une œuvre d'examen, une œuvre d'humiliation. Et si le cœur et les mains ne s'unissent pas pour l'accomplir, elles ne servent de rien. Prier du cœur pour le cœur, c'est prier par l'esprit, que ce soit avec ou sans un formulaire. Il n'est rien de plus aisé que de dire les paroles d'une prière, mais prier en ayant faim et soif est de toutes les œuvres, c'est la plus difficile. L'acquiescement ou le simple acte de la prière est une illusion très dangereuse et tient l'âme éloignée du soulagement dont elle a besoin. Il est bien facile d'offrir à Dieu beaucoup de prières, mais qui est-ce qui s'offre soi-même à lui? Je répète, mais qui est-ce qui s'offre soi-même, lui-même, à Dieu? Le besoin senti et le secours désiré avec la foi pour l'obtenir, c'est là la prière. Et sans ces qualifications, tout ce qu'on appelle de ce nom n'est qu'une illusion par rapport à nous-mêmes et un mensonge par rapport à Dieu. La première chose que nous devrions donc demander, c'est le sentiment de nos besoins avec volonté et le désir de prier selon ses besoins. Il y a dans le culte des amis ou les Quakers un acte aussi touchant que solennel. C'est celui de l'adoration silencieuse, silent worshipping. Tous les fidèles qui sont réunis, se recueillent en prière, non des lèvres, mais du cœur. Et dans ce moment d'un religieux silence, l'âme s'élevant véritablement jusqu'au trône de grâce, redescend plus pur, oui, plus fort et plus uni à son Sauveur vers les régions de la vie terrestre où elle doit combattre encore. Dans nos prières de famille, dans nos dévotions particulières et dans tous les instants où nous voulons prier, efforçons-nous donc de faire véritablement silence en nous, disons du fond de notre âme, « Oui, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Soyons donc assurés que alors lui-même daignera nous apprendre à prier et nous accordera les secours abondants de l'Esprit Saint, qui lui seul produit les fruits de foi, d'amour et de sanctification. Cette sainte parole est un trésor inépuisable d'édification et de prière, et les personnes qui la lisent et qui la méditent habituellement savent y trouver tout ce dont elles ont besoin pour exprimer les sentiments de leur âme. Les livres de piété doivent donc toujours ramener à la Sainte Bible, qui est le livre des livres. Dans la prière particulière et secrète, c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. L'expansion est son plus doux caractère, et le Dieu tout bon à qui elle s'adresse va agréer notre hommage, quelle que soit la simplicité du langage dans lequel nous le lui offrons. Mais lorsque on prie avec et pour plusieurs, il ne faut point perdre de vue que les impressions de l'un ne sont pas sans doute celles de l'autre, et que alors il faut se faire à tous, suivant la belle expression de saint Paul, et qui le peut si ce n'est l'Esprit divin. Les plus éloquentes prières humaines ne sont que des paroles d'hommes, tandis que la parole de Dieu, nous le savons, est vivante et efficace. Elle atteint jusqu'au fond de l'âme et de l'esprit. Elle juge des pensées et des intentions du cœur. C'est donc avec raison que David disait « Je me suis attendu à ta parole, comme lui attendons-nous à elle, et approchons-nous de l'autel dont le feu purifie nos lèvres. » Les prières contenues dans la Sainte Bible répondent à tous les sentiments qui peuvent alternativement faire vibrer nos âmes. Dans l'Ancien Testament, les prières des patriarches, du roi psalmiste, des prophètes, sont remplies d'abondance, inspirées par l'Esprit de Dieu. Elles doivent fournir à notre dévotion un aliment qui ne peut jamais s'épuiser et être pour nous ce qu'elles furent pour les disciples de notre Rédempteur. Et en même temps, elles nous présentent l'admirable modèle de supplication et de louange. Les prières rapportées par les évangélistes, celles qui contiennent les actes des apôtres, les épîtres, et l'Apocalypse sont courtes et précises. Elles nous apprennent qu'au cri du cœur, à l'élan de la foi, répondait toujours par la délivrance. Oui, Dieu répondra toujours, et celui en qui habitait corporellement la plénitude de la divinité, oui, c'est lui, notre Sauveur et Seigneur, oui, le fils de David, on dit « Aie pitié de moi ». le fils de David a dit « Aie pitié de moi ». Et ces simples paroles suffisaient pour obtenir de Jésus l'assurance du pardon et du salut, et nous enseigne comment nous pouvons prier dans les jours d'épreuves et d'angoisse. La sublime révélation de Saint Jean, elle nous indique combien la prière doit être profondément sentie et portée une empreinte solennelle. Les élus marqués du sceau de Dieu, la multitude des bienheureux que personne ne peut compter, s'écrient « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Les anges se prosternent et adorent en disant « Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Ces paroles, si brèves, mais si pleines, renferment et résument tout ce qu'il y a de plus profond et de plus élevé et de plus adorable. Et nous devons méditer ces divins modèles afin que nos prières deviennent de plus en plus saintes. Oui, Seigneur, toi seul peux nous faire comprendre et sentir ce que est, ce que doit être la prière. Toi seul peux nous apprendre à prier. Seigneur, aide-nous, ouvre nos lèvres et nos bouches annonceront ainsi tes louanges. Et maintenant, chers amis, nous allons partir à la deuxième série d'explications et de conseils utiles. C'est donc la deuxième partie. Certaines paroisses proposent aux fidèles des exercices spirituels quotidiens. Elles leur offrent ainsi un moyen de ressourcer leur vie courante. Réunis en petits groupes, les participants échangent des réflexions sur le texte biblique qu'ils méditeront tout au long de la semaine en s'efforçant de le mettre à chaque instant en pratique. Mais bien souvent, les chrétiens ressentent aussi le besoin d'exercices individuels. Or, ils ne disposent que rarement de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice qui est capable de les guider. Et c'est pourquoi, dans ces études, je me suis efforcé d'aider l'auditeur et l'auditrice à tirer pleinement profit de 12 textes bibliques. Avant de vous engager dans ces méditations, voici quelques indications sur la façon d'utiliser ces études. Vous pouvez faire retraite dans le silence pendant 12 jours en consacrant chacun d'eux à une de ces méditations. Vous pouvez aussi les utiliser pour votre prière journalière, tout simplement. Le mieux est d'écouter tout simplement les textes la veille au soir ou immédiatement avant votre méditation. Réfléchissez bien au moment de la journée que vous comptez y consacrer. Si vous faites ces exercices dans une maison de retraite spirituelle, reprenez 3 ou 4 fois par heure le texte biblique en le priant et en le méditant. À cet effet, organisez votre journée en prévoyant vos temps de prière, de promenade ou de présence à l'église. Si vous faites ces exercices tous les jours, il vous faudra réduire un peu vos activités et vos contacts avec l'extérieur, renoncer à la télévision et à tout autre livre que à la Sainte Bible, réserver des moments de tranquillité. La méditation de chaque texte exige environ une heure par jour. Vous devez donc d'abord décider du meilleur moment à y consacrer. À l'expérience, les heures préférables sont celles de la matinée. Mais si votre horaire ne s'y prête pas, vous pouvez tout aussi bien en choisir une autre. Le soir, vous devez encore pendant un quart d'heure revenir sur votre journée en examinant la façon dont le texte l'a marqué. Nous pouvons nous efforcer de voir ce que Dieu a réalisé en nous durant la journée, nos raisons, et de le remercier, nos élans spirituels, nos pensées et nos actions. Après une demande de pardon, je m'interroge sur le progrès que je voudrais faire et sur le surcroît de confiance et d'espérance que je peux ressentir. Alors je prends la résolution de faire toujours davantage de place à Dieu en moi pour qu'il me façonne encore plus selon sa volonté et qu'il vienne répondre à mon attente. Je réfléchis déjà au lendemain pour permettre à son amour de me pénétrer plus encore. Je m'interroge sur mes désirs et je les remets entre les mains de Dieu. Quand vous aurez décidé du moment de la méditation, réfléchissez au lieu où vous serez le mieux pour le faire. Si vous êtes chez vous, retirez-vous dans votre coin de prière en vous agenouillant éventuellement, ou bien trouvez une chapelle ou une église où vous pourrez prier tranquillement. Avant d'ouvrir la Bible, recueillez-vous, prenez conscience de votre souffle et pensez que vous êtes en présence du Dieu qui vous aime et qui vous sauve, qu'il veut vous parler de façon très personnelle. Vous pouvez également commencer votre prière debout, par un geste tel que celui de la coquille. Vous tendez simplement vos mains vides vers Dieu en le priant de les remplir. Invoquez le Saint-Esprit pour qu'il vous ouvre à la parole divine. Puis asseyez-vous et prenez votre Bible avec soin et respect. Lisez lentement le texte proposé et laissez chaque mot pénétrer votre cœur en cherchant à le goûter, à le savourer, à le répéter jusqu'à ce qu'il s'imprime en vous. Et à propos de chacun de ces mots, pensez que c'est Dieu lui-même qui vous l'adresse. Quand vous méditez une scène biblique, par exemple un récit de miracle, représentez-vous là de façon concrète tout cela. Entrez dans le spectacle jusqu'à devenir le malade qui vient à Jésus ou que Jésus touche avec amour. À travers le personnage de cette scène, vous rencontrerez Jésus-Christ. Vous le regardez et vous vous laissez regarder par lui. Dites-lui ce qui vous frappe. Demandez-lui ce qu'il veut vous dire et écoutez dans le silence ce qu'il vous répond. Peut-être reste-t-il muet, vous n'entendez absolument rien. Suspendez alors votre question. Peut-être un mot surgira-t-il à un moment inattendu pour vous indiquer le chemin, ou vous aurez tout d'un coup le sentiment de vous trouver en relation avec lui. Ce que vous dites n'a alors plus beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est que vous êtes devant Jésus, avec lui et en lui. Et cela suffit. Prolongez donc cette rencontre, cette relation avec lui, jusqu'à ce que votre attention se relâche. Et continuez alors à lire le texte en laissant les mots tomber dans votre cœur, ou portez-vous dans la situation suivante, parlez à voix haute avec Jésus. Pour moi, un bon moyen de commencer un exercice consiste à parler avec Jésus. Je lui dis alors ce qui me tient le plus à cœur. Je le supplie de me délivrer et de me dire la parole qui me montrera le chemin à suivre dans la situation où je me trouve. Si je m'entretiens ainsi avec lui, je ne puis me soustraire à lui et je reste attentif. Je me sens donc profondément concerné. S'adresser directement à Jésus et l'entendre avec sa propre voix, ça c'est quelque chose de très touchant, au point que parfois on peut céder aux larmes. Je ressens alors qu'il est bien là, qu'il me rencontre de façon tout à fait personnelle et qu'il s'adresse à moi. Devant lui, je vais me confronter à ma vraie, véritable réalité, à tout ce qu'il m'arrive de masquer sous la superficialité de mes actes de piété, mes désirs les plus profonds, mais aussi tout ce que je voudrais cacher à Dieu quand je fuis ma vérité et quand je reste en retrait par rapport à ce que je veux vraiment. Et du sein de cette vérité qu'il me gêne d'admettre, alors je perçois soudain que je suis totalement accepté, que, en dépit de tout, tout est bien. Je suis alors envahi par une paix profonde. Chaque méditation se passe d'une manière différente. Il y en a au cours desquelles je dois me forcer à rester là quand je voudrais une fois de plus fuir. Il suffit alors simplement de tenir et de m'exposer à Dieu avec mon énervement et avec mon vide. L'essentiel, voyez-vous, c'est d'offrir à Dieu notre cœur si troublé. Alors Dieu peut aussi le changer. Ne cédez pas aux soucis de rendement, comme si chaque prière devait vous permettre un cœur à cœur avec Dieu ou Jésus, comme si vous deviez éprouver un sentiment de succès à chaque méditation. C'est déjà beaucoup si vous tenez bon, même si vous passez par le désert, car reviendront aussi des moments de prière où vous vous sentirez profondément touché. Si vous faites souvent ces exercices, ne comparez pas celui du moment au précédent et n'ayez pas la nostalgie des expériences que vous auriez pu y connaître. Il s'agit simplement de vous mettre devant Dieu dans votre situation présente. Il agit déjà en vous, mais peut-être tout autrement que vous ne vous le figurez. Laissez-vous donc simplement aller à ce qu'il vous dit aujourd'hui. Accueillez la vérité qu'il vous découvre dans l'instant même en allant où il vous veut présentement. Chers amis, tout comme la prière à haute voix constitue quelquefois une aide pour arriver à rencontrer Jésus, je peux aussi m'aider de certains gestes pour maintenir en moi sa présence, tel celui des mains ouvertes, je l'ai déjà dit, par lequel j'exprime mon désir, mon aspiration, à le voir venir combler mon vide. Je peux joindre les mains pour me laisser lier par lui. Je lui traduis ainsi mon appartenance totale, oui, ma volonté d'être entièrement à son service. Ce geste traduit donc l'aspiration de tout mon être à me laisser aller à Dieu, à me laisser porter par lui, à me réfugier dans son amour et à m'y maintenir. À ce moment, me viennent tout naturellement à la pensée les paroles du psalmiste qui dit « Dieu, c'est toi mon Dieu que je cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. » Psaume 63, verset 2. Si au cours de la méditation, je suis intérieurement distrait, de tels gestes contribueront à fixer mon esprit vagabond. Je sens que je suis en présence du Christ avec tout ce qui est en moi. Vous pouvez terminer votre temps de méditation par une prière résumant tout ce que vous voudrez dire au Christ. Achevez le tout par une inclination profonde devant lui qui vous regarde avec beaucoup d'amour. Puis asseyez-vous et écrivez les pensées et les intuitions les plus importantes qui sont advenues au cours de votre temps d'oraison. Vous pouvez écrire une prière ou tout simplement la découverte, le sentiment d'accord que vous avez éprouvé, puis transposer dans votre vie quotidienne tout, absolument tout, ce qui a germé en vous. Nul besoin de penser toute la journée à ce que vous avez perçu durant votre méditation. Cela finirait par devenir très ennuyeux. Il vous faut plutôt transposer dans vos actes la qualité intérieure à laquelle vous avez accès à ce moment-là. Ce Jésus qui vous a parlé, et avec lui, c'est le Dieu trinitaire, plein d'amour et de miséricorde, qui demeure dans votre cœur, dans l'espace intérieur de votre silence. Il est précieux de se rappeler tout au long de la journée que nous disposons d'un lieu auquel n'ont pas accès les gens qui entrent présentement dans notre bureau, ceux qui nous tracassent avec leurs problèmes concrets, souvent triviaux. Il y a en vous un secret qui vous permet de rester distant par rapport à tout ce que vous faites. Et c'est dans cette distance que vous découvrez votre liberté. Vous percevez que vous reposez en Dieu et que vous ne vous laissez pas définir par les événements extérieurs. Si vous réussissez à ressentir cette qualité intérieure, eh bien vous vous sentez libre et vous pouvez alors consentir aux exigences concrètes de votre travail. Parfois, à la fin de la méditation, il est aussi utile de rédiger quelques résolutions concrètes. Je suis tout à fait prudent en la matière. En conclusion des méditations qui suivent, je propose toujours un exercice pratique qui peut vous aider à traduire vos découvertes dans votre vie quotidienne. À la fin, j'ajoute de temps en temps une résolution concrète de changement, par exemple celle de réorganiser nos journées, d'engager par exemple le contact ou de le rompre avec certaines personnes, de résoudre enfin un conflit que vous n'avez pas cessé de tenir à distance. Il est parfois précieux de se fixer un rituel journalier susceptible de rappeler l'expérience de votre retraite. Ce peut être notamment celui par lequel vous débutez votre journée, un simple geste ou une invocation devenue vraiment importante durant ces jours de solitude. Ce peut être la rédaction de votre journal. De tels rituels ne dépendent pas seulement de votre volonté, souvent fort changeante et trop peu constante. Ils deviennent de bonnes habitudes à travers laquelle ou lesquelles Dieu peut agir en nous, en nous emplissant de son Esprit Saint, afin que nos journées soient toujours plus pénétrées de sa divine présence. Le but des exercices, eh bien, à la fin des exercices, il faut nous décider à accorder beaucoup plus de place à Dieu en nous. Si je dois faire davantage place à Dieu, c'est pour qu'il puisse me transformer, pour que le Christ grandisse et qu'il prenne forme en moi. Il ne s'agit donc pas, en premier lieu, de résoudre tout simplement des difficultés concrètes, mais de progresser dans l'amour de Dieu et d'acquérir une nouvelle sensibilité à cet amour divin. Oui, Dieu, qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné selon Romains 5, verset 5, le but ultime de notre vie, la seule réalité qui nous fait vivre vraiment, c'est Dieu. Par le silence, la prière et la méditation, les exercices visent à nous introduire dans le mystère du Dieu trinitaire qui habite en nous par le Saint-Esprit. S'ils font grandir notre désir de ce Dieu, alors notre vie en tire un goût nouveau. C'est celui de la vie divine et de l'amour divin. Nous percevons alors que notre vocation la plus profonde est de lui faire place en sorte qu'il nous pénètre et qu'il nous renouvelle jusqu'à ce que nous parvenions à réaliser en nous l'image que Dieu s'est faite de chacun de nous. Par la pratique incessante de la prière, votre cœur doit finir par se tourner de lui-même vers le Dieu qui peut absolument tout. Si l'Esprit lui-même prie en nous, sans que nous ayons besoin de nous y forcer, eh bien nous découvrirons que nous sommes nous-mêmes l'habitation de la Trinité. Oui, cette prière approfondira notre amour de Dieu. Elle ne cessera de faire grandir en nous notre désir du Dieu trinitaire jusqu'à nous donner d'entrevoir celui auquel nous aspirons dans notre prière. Amen. Et donc, demain matin, Dieu voulant, nous commencerons par la première méditation. À demain matin, Dieu voulant, mes chers amis, et je répète encore une fois, il n'y a rien de plus important après tout ce que j'ai étudié pendant toute une vie et vu mon très grand âge, je peux vous dire que, à mon avis, ça engage que moi. La prière est vraiment quelque chose que aucun de nous devrait mettre de côté. Jamais. À demain matin, Dieu voulant. Au revoir, mes très chers amis.